Malgré les centaines de milliards d'euros et de dollars mis à la disposition des banquiers, la crise financière n'a été stoppée que pour deux brèves journées. Aussitôt après, les bourses se sont remises à chuter. À l'ombre de la crise financière a grandi la crise de l'activité productive elle-même, une crise généralisée de toute l'économie capitaliste. Si les prix des actions continuent à chuter, malgré les interventions des États en faveur du système bancaire, c'est bien sûr parce qu'il y a des spéculateurs qui continuent à spéculer, mais cette fois-ci à la baisse. C'est aussi parce que la baisse des actions d'une entreprise arrange les affaires d'un concurrent à qui cela donne l'occasion de la racheter pour pas cher. Derrière ces multiples mouvements, il y a cependant surtout le fait que tous ceux qui ont des capitaux à placer s'attendent à une récession, c'est-à-dire à un recul des marchés, à la diminution de la production et sans doute des profits. Ce ne sont pas seulement les banquiers qui se méfient les uns des autres au point de refuser de se prêter de l'argent, au point de bloquer le fonctionnement normal du crédit. C'est toute la classe capitaliste qui se méfie de la capacité à rebondir de sa propre économie en crise. Une récession économique, ce sont des usines qui ferment, totalement ou partiellement, qui réduisent leurs effectifs. C'est un accroissement du chômage, c'est la pression sur les salaires. La classe capitaliste, qui ne cesse depuis nombre d'années d'aggraver les conditions d'existence de la classe ouvrière pour dégager les énormes profits qu'elle a joués au casino de la finance, tentera de faire payer les conséquences de la crise par les travailleurs. Eh bien, ce que nous souhaitons, ce que nous espérons, ce qui nous donne des raisons de militer, c'est que la classe ouvrière retrouve les voies et les moyens de se défendre. Pendant des mois, les ministres se sont répandus en phrases lénifiantes, tantôt pour minimiser la gravité de la crise, tantôt pour prétendre que la crise était américaine et ne traverserait pas l'Atlantique. Mais on n'arrête pas la crise en la niant avec des mensonges de propagande. Tous ces ministres savaient pertinemment que la plus grave crise qu'ait connue le capitalisme, celle de 1929, avait commencé aussi aux États-Unis. Mais non seulement elle avait traversé l'Atlantique, mais très rapidement, elle avait fait plus de dégâts en Europe qu'en Amérique. Elle s'était traduite par la fermeture d'un grand nombre d'entreprises, par un accroissement brutal du chômage, par la plongée dans la misère de millions, de dizaines de millions de travailleurs sur tous les continents, sans même parler de ses conséquences politiques catastrophiques, l'arrivée au pouvoir de Hitler en Allemagne, débouchant sur la Seconde Guerre mondiale. L'histoire ne se répète pas nécessairement, bien sûr, et surtout pas dans les mêmes formes. Mais la crise actuelle rappelle que le capitalisme n'est pas seulement un système fondamentalement injuste, parce que basé sur l'exploitation au profit d'une petite minorité de capitalistes, mais aussi parce que c'est un système irrationnel, incapable de répondre aux besoins de l'humanité, même dans les périodes où la machine économique semble fonctionner et qui pourtant la conduit périodiquement à la catastrophe. L'exposé de ce soir n'est pas consacré au dernier développement de cette crise, dont les conséquences commencent à frapper les classes populaires, même dans les pays que l'on considère comme des pays riches, en particulier en France. Mais parmi les multiples voies empruntées par la crise au cours de son développement, il y en a une qui a déjà touché les classes populaires ici même, en France, mais qui surtout a déjà frappé durement les pays pauvres. Il s'agit de la hausse brutale des prix alimentaires. Oui, la crise alimentaire qui a déclenché des émeutes de la faim dans les premiers mois de cette année était déjà une des premières manifestations de la crise actuelle de l'économie capitaliste. Souvenez-vous de ces images, pourtant filtrées, de villes d'Égypte, du Sénégal, du Cameroun, d'Indonésie, montrant des femmes et des hommes manifestant parce qu'ils n'en pouvaient plus, parce que les prix des aliments de base, riz, blé, maïs, s'étaient envolés avec une telle brutalité qu'ils étaient condamnés à la famine. L'image de ces femmes de Côte d'Ivoire, armées de casseroles, d'assiettes et d'ustensiles divers, qui criaient leur colère devant le renchérissement du prix du riz. Les images d'Haïti, qu'on a pu voir hier, montrant des familles réduites à se nourrir de galettes de boue d'argile, contenant du sel et une graisse de mauvaise qualité. La carte des manifestations, des émeutes, des pillages d'entrepôts étalée du Mexique aux Philippines, à l'autre bout de l'Asie, en traversant toute une partie de l'Afrique. Les gouvernements locaux, affolés, tantôt ont répondu par la répression, en faisant donner la matraque ou le fusil, tantôt ont reculé devant la colère populaire, en annonçant des subventions pour les produits de première nécessité. La simultanéité et la violence des émeutes dans de nombreuses villes de différents pays ont donné la mesure des conséquences de la hausse brutale des prix pour les classes populaires des pays pauvres. Oui, le fait que des millions de personnes dans les pays pauvres soient poussées vers la famine est déjà une des conséquences de la crise actuelle. Mais si la crise a commencé là-bas sous forme d'une crise alimentaire, c'est pour des raisons bien plus profondes. C'est parce que, même en temps ordinaire, toute une partie de l'humanité est aux limites de la famine, sous-alimentée ou mal nourrie. Quelles sont les causes immédiates de la crise alimentaire? Et au-delà, pourquoi des centaines de millions de personnes, une partie importante de l'humanité, sont-elles condamnées en permanence à la sous-alimentation ou à la malnutrition? Et pourquoi cela continue-t-il de s'aggraver alors que l'homme n'a jamais autant maîtrisé la nature? Nourrir convenablement toute l'humanité serait-il une impossibilité liée aux ressources de la planète? Ou cela est-il dû exclusivement à l'organisation sociale actuelle? Voilà les questions auxquelles répond l'exposé d'aujourd'hui du Cercle Léon Trotsky, consacré à la crise alimentaire. Je donne donc la parole à la camarade Anne Zanditenas.
Selon la Banque mondiale, l'ensemble des prix alimentaires mondiaux a augmenté de 83% au cours des trois dernières années. Le prix du maïs a doublé en 2 ans sur le marché mondial, celui du blé en 1 an. Le prix du riz a grimpé de 54% depuis janvier 2008. Cette hausse des prix a eu des conséquences jusqu'à y compris dans les pays les plus riches de la planète. Combien de familles ouvrières ne parviennent plus à se nourrir sans les dons de la banque alimentaire, sans les épiceries sociales, sans les restaurants du cœur? Combien d'enfants ne disposent que d'un seul repas équilibré, celui asservi à la cantine, dans les municipalités ayant fait le choix d'en réduire le prix à 50 centimes ou moins? Depuis le début de l'année, les reportages se multiplient sur ces familles qui, disposant de revenus de l'ordre de 450 euros ou de 600 euros, font les poubelles des supermarchés pour se nourrir. Dans les pays pauvres, la situation prend un tour catastrophique. Comment pourrait-il en être autrement pour l'immense majorité des habitants des bidonvilles, des grandes cités, qui consacrent 80% de leurs faibles revenus à la nourriture? Et encore, souvent pour un seul repas par jour. Alors, quand le prix du blé, du maïs et du riz, qui sont à la base de l'alimentation quotidienne, augmente de 30 à 50%, il n'y a aucune dépense sur laquelle prendre de quoi faire face à la hausse. Il devient alors même impossible de prendre un repas par jour. Ces femmes, ces hommes et ces enfants sont littéralement assassinés. Mais ce n'est pas seulement lorsque les prix s'envolent, c'est en permanence qu'une partie de l'humanité est affamée. D'après la FAO, l'Organisation mondiale de l'agriculture et de l'alimentation, sur les 6,5 milliards d'habitants que compte actuellement la Terre, 2 milliards sont mal nourris et 923 millions sont affamés. Ces chiffres se basent sur les besoins quotidiens de chaque être humain, qui sont de 2500 kilocalories par jour minimum. Cela signifie qu'un septième environ de la population mondiale actuelle vit dans une famine permanente et sous la menace constante de mourir de faim, avec toutes les conséquences que cela comporte. Toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt car sa famille ne peut pas le nourrir. Quant à la malnutrition, elle est permanente pour des millions de personnes. Alors cette malnutrition n'a rien à voir avec la malbouffe dont parle José Bové, qui consiste à aller trop souvent au McDo. Pouvoir aller au McDo, ce serait déjà pouvoir se nourrir. Et à tout prendre, c'est une nourriture plus équilibrée que la peau ou les os des bovins morts de vieillesse, que les herbes ou les feuillages bouillis qui font le quotidien de tant de familles d'Afrique. La malnutrition dont nous parlons, c'est celle qui est responsable de maladies, de carences, de l'affaiblissement général d'une fraction importante de la population mondiale. Les carences en vitamine A peuvent rendre aveugles. L'iode et le fer sont indispensables pour les enfants et les femmes enceintes. Chaque année, 10 à 20 millions de personnes meurent de maladies provoquées par la malnutrition. Voilà ce qui se passe en temps ordinaire. Voilà la vie quotidienne de centaines de millions de personnes sur la planète en ce début de 21e siècle, et ce, malgré nos immenses possibilités scientifiques et techniques. La production de céréales, de riz et autres aliments de base est suffisante pour que toute la population ait de quoi se nourrir, même dans cette année de crise alimentaire. On dispose de plus de 2500 kilocalories par personne en se basant sur le niveau des récoltes de céréales, de la production de fruits et légumes et de viande. Il est vrai que les réserves ont diminué du fait de quelques mauvaises années de mauvaises récoltes, mais aussi des choix des autorités, des pays riches en particulier, de limiter la production pour maintenir les prix. Cependant, malgré cette baisse, il y a encore de quoi satisfaire les besoins élémentaires de la population mondiale, bien que celle-ci soit passée de 2,5 milliards en 1950 à plus de 6 milliards aujourd'hui. Alors, ce n'est pas le manque au sens strict de riz ou de blé, ce ne sont pas les mauvaises récoltes qui expliquent la situation alimentaire désastreuse d'une partie de la population. Cette situation est liée à ce fait fondamental que la nourriture, comme tout produit dans cette société, se vend, et donc que le droit à s'alimenter dépend du marché, de la solvabilité. D'après les chiffres de la FAO, 1,2 milliard d'hommes doivent vivre avec des revenus inférieurs à 1 dollar par jour. Quel moyen a-t-on de se nourrir, de faire face à un imprévu, quel qu'il soit, avec une telle somme ? Alors quand on est pauvre, on a juste le droit de crever ? Des disettes et des famines, l'humanité en a connu tout au long de son histoire. La lutte pour arracher à la nature de quoi se nourrir en est même la trame. En menant cette lutte pour tenter d'échapper à la précarité de leur existence, les hommes des sociétés primitives de chasseurs-cueilleurs ont développé des moyens de production. La période qui s'est étalée sur des millénaires durant laquelle la découverte de l'agriculture et de l'élevage a permis aux hommes de ne plus dépendre uniquement de ce qu'ils trouvaient dans la nature, mais de faire quelques réserves. Cette étape de l'histoire de l'humanité, qualifiée de révolution néolithique, a bouleversé le mode de vie des hommes et les a rendus capables de maîtriser la nature. On a atteint alors une plus grande sécurité alimentaire. Néanmoins, les sociétés d'agriculteurs et d'éleveurs durent continuer à affronter des périodes de disette liées à des conditions climatiques défavorables ou aux difficultés de transport. L'invention de l'agriculture et sa généralisation ont permis aux collectivités humaines de bénéficier d'un surplus permanent. Grâce à ce surplus, une partie de la collectivité humaine s'est détachée de la production de nourriture pour s'adonner en permanence à d'autres activités artisanales ou intellectuelles. En favorisant une division du travail plus poussée au sein de la société, ce surplus a été à l'origine de bien des progrès de l'humanité. Mais il a aussi créé les conditions matérielles de la division de la société en classes. monopolisant le surplus, une minorité a acquis la possibilité de dominer le reste de la population. La lutte pour accaparer ce surplus est devenue le fil conducteur de la lutte des classes et donc de l'histoire. Dès ce moment, les conditions sociales ont largement interféré avec les conditions naturelles pour rendre la collectivité humaine capable ou pas d'assurer à ses membres leur nourriture. Mais déjà, de Rome à la Chine, la classe dominante et l'État qui la représentait pesaient sur les conditions de production et de répartition de la nourriture. Des terres accaparées par la classe dominante, des impôts à payer en nature ou en journée de travail au prince ou au roi, tout cela pesait déjà autant, voire plus, que les aléas de la nature sur les conditions de vie des paysans, mais aussi sur la capacité de la société à nourrir la société. Et même la spéculation, dont je parlerai dans la suite, n'est pas une invention récente. Accaparer du blé au moment de la récolte pour revendre avec profit au moment où il manque est un moyen de s'enrichir depuis des temps immémoriaux. Or, le socialiste allemand August Bebel explique dans son ouvrage « La femme et le socialisme », donc je le cite, « À aucune époque, Rome et l'Italie ne furent aussi pauvres en ressources alimentaires que lorsque la totalité du sol se trouva entre les mains d'environ 3000 propriétaires. D'où le cri d'alarme. La grande propriété mène Rome à sa ruine. Le sol était transformé en vaste territoire de chasse et en jardin d'agrément grandiose. En maint endroit, on le laissait en friche parce que sa culture par le travail des esclaves coûtait plus cher que les céréales et les grains qu'on tirait de la Sicile et de l'Afrique. Alors on peut néanmoins ajouter que les maîtres avaient intérêt à nourrir leurs esclaves pour ne pas perdre le capital que ceux-ci représentaient. Mais ce n'est pas le cas, du mode d'exploitation actuel du salariat. Alors ce ne furent plus uniquement les catastrophes naturelles détruisant les récoltes et les maladies décimant les troupeaux qui expliquaient le manque de nourriture, mais le parasitisme des classes possédantes. Ce parasitisme s'exacerbe à toutes les époques où la classe au pouvoir entre en décadence. À la veille de la Révolution française, quand le rôle social des nobles devint purement parasitaire, les terres de Picardie, qui constituaient le grenier à blé pour Paris, produisaient de moins en moins. En effet, les propriétaires terriens menaient la grande vie à Paris ou à Versailles et cherchaient à tirer le maximum des paysans, mais sans investir et sans se préoccuper des cultures. La maîtrise de la nature par l'homme restait rudimentaire. Cela rendait probablement inévitable ces disettes, mais aux difficultés pour produire suffisamment de nourriture se superposait une organisation sociale au service des classes riches. Avec l'avènement au pouvoir de la bourgeoisie et la révolution industrielle, l'humanité a libéré, selon les termes de Marx dans le manifeste du Parti communiste, des forces productives plus nombreuses, plus colossales que ne l'avaient fait toutes les générations passées prises ensemble. Ce développement prodigieux des moyens de production pourrait permettre à l'humanité de sortir de l'insécurité alimentaire. Les moyens existent pour produire, transporter, conserver les aliments. La productivité du sol a fait un bond. Au XVIIe siècle, en Europe, il fallait en moyenne 2 hectares pour nourrir une personne. Actuellement, ces 2 hectares peuvent nourrir entre 10 et 20 personnes. Et il ne s'agit pas des exploitations les plus modernes. Mais il faut dire qu'entre le producteur de nourriture et le consommateur s'intercale le marché. Jusqu'à la révolution industrielle, la majorité de la population vivait dans les campagnes et était paysanne. Elle parvenait plus ou moins à subvenir à ses besoins, mais participait très peu à l'économie marchande. le développement capitaliste, accéléré par la révolution industrielle, a bouleversé cet ordre en intégrant petit à petit l'ensemble de la population à son économie et au marché. L'exode d'un nombre croissant de paysans chassés de leurs terres par la violence qui a précédé et accompagné la révolution industrielle en Angleterre allait se reproduire un peu partout, transformés en ouvriers ou en chômeurs quand l'industrie n'avait pas besoin d'eux. Ils sont allés grossir les villes où ils ne pouvaient se nourrir qu'en passant par le marché. L'exode rural a arraché des millions d'êtres humains à une vie en grande partie autarcique. Cette évolution s'est faite progressivement dans de nouveaux pays et de nouvelles régions. Pour élargir sans cesse la production, trouver des débouchés à ses marchandises et à ses capitaux, la bourgeoisie a petit à petit imposé dans le monde entier son mode de production et les rapports d'exploitation bourgeois. Les modes d'organisation précédents ont été plus ou moins détruits et en tout cas intégrés dans le système capitaliste. Aujourd'hui, la quasi-totalité de la population mondiale dépend du marché capitaliste, directement ou indirectement. Seulement, l'économie de marché ne tient compte que de la demande solvable et uniquement de la demande solvable. De ce fait, le système laisse de côté des millions de gens trop pauvres, même en dehors des périodes de crise. La crise financière nous apporte la démonstration que l'économie de marché est aveugle et irrationnelle, et que l'équilibre entre ce que l'on produit et la demande, même solvable, se réalise après coup, de façon violente, par la destruction, par la crise, justement. Mais s'il y a un domaine où cette façon de réguler l'économie après coup est dramatique, c'est ce domaine vital pour les êtres humains, l'alimentation. De plus, présenter le marché mondial comme un lieu idyllique de confrontation entre l'offre et la demande qui finirait par s'équilibrer au mieux pour les producteurs et pour les consommateurs est un conte de fées. Il n'y a aucune égalité entre les différents acteurs qui s'y confrontent. De grands groupes dominent le marché de l'alimentation comme la production de toute marchandise. Qu'y a-t-il de commun entre le paysan qui tente de survivre en produisant du café et Nestlé, un des plus grands trusts qui est l'acheteur final et le distributeur de sa production? Quelques dizaines de milliers de firmes agissant à l'échelle de la planète sont face à la majorité des pauvres et des affamés qui sont des paysans. De la même façon, le marché n'unifie pas, mais oppose les pays riches, d'où est issue la grande majorité des trusts alimentaires, et les pays pauvres. Ces derniers ont été intégrés au marché mondial, mais en état de subordination à l'économie des pays impérialistes. Quels moyens ont des pays comme l'Éthiopie ou Haïti d'intervenir sur le marché et d'imposer leurs conditions? Là encore, il n'y a pas d'égalité. Ce sont les pays riches qui fixent les règles. Le marché est une arène où les plus pauvres sont écrasés au profit des plus riches. N'en déplaise à Sarkozy, le marché est une jungle. Alors voilà dans quel contexte s'est développée depuis quelques mois la crise alimentaire. Elle est un condensé de la façon dont fonctionne le marché, est un contre-exemple des capacités de ce même marché à harmoniser la production. Quelles sont les raisons immédiates de la flambée des prix alimentaires? Alors, parmi les raisons évoquées, il y a de tout et surtout de n'importe quoi. Passons sur les explications classiques telles que les sécheresses ici ou les fortes pluies ailleurs. Nous ne sommes plus au XVIIe siècle, ni du point de vue des capacités de production, ni de celles du transport. Or, il y a eu aussi des explications plus à la mode, hein, qui réunissent les précédentes, comme « c'est la faute au réchauffement climatique ». Et puis, il y a les pseudo-explications cyniques, celles qui accusent les Chinois ou les Indiens de trop manger. Un journaliste d'Ouest France a même pu écrire qu'en Chine, je le cite, hein, on s'est pris d'appétit pour la viande. Pour ces gens-là, le fait même qu'une partie de la population qui jusqu'à maintenant ne pouvait se payer un morceau de viande y ait accès représente une calamité. Faut-il que les pauvres restent pauvres et ne puissent pas faire deux repas par jour pour que les autres n'aient pas à craindre des désordres mondiaux dans la production alimentaire ? Il en est même qui ont pointé du doigt le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande et d'autres pour avoir instauré un moratoire sur leur exportation de riz ou de les avoir limités. David King, le secrétaire général de la Fédération internationale des producteurs agricoles, a osé déclarer « Ces pays choisissent d'affamer leurs voisins ». Ce monsieur est outré parce que des pays sous-développés font le choix de garder du riz pour nourrir leur population plutôt que d'exporter. Le président de la Banque mondiale a exhorté ces pays exportateurs à laisser les lois du marché établir les prix. Alors on a actuellement un bel exemple de ce qu'il advient lorsqu'on laisse faire les lois du marché. Et cette crise n'est-elle pas elle-même le résultat des lois du marché ? Des commentateurs déjà plus sérieux soulèvent d'autres causes réelles, celles-là, comme la hausse du prix du pétrole qui renchérit l'usage du tracteur et des machines agricoles, ainsi que le coût de fabrication des engrais et des pesticides. Mais cette réponse soulève une nouvelle question. Pourquoi une telle hausse du pétrole ? Lié au problème du pétrole, il y a celui des agrocarburants qui accaparent de plus en plus de terres qui ne produisent plus pour l'alimentation humaine. Or, on ne peut que partager l'indignation de Jean Ziegler, l'ex-représentant de l'ONU sur les questions alimentaires, qui dénonce le développement de cette essence dite verte comme, je reprends ses propres termes, un crime contre l'humanité. Ces explications mettent en cause tel ou tel aspect du fonctionnement de l'économie capitaliste, mais pas son fonctionnement dans son ensemble, pas la logique du marché capitaliste dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. La spéculation sur les matières premières agricoles elles-mêmes, raison majeure de la crise alimentaire de cette année, ne se comprend que dans le cadre du fonctionnement de l'ensemble de l'économie. La crise alimentaire fait partie d'une succession d'événements qui, depuis plus d'un an, fait trembler l'économie capitaliste et aboutit de proche en proche à une crise générale de l'économie. Lorsque la crise immobilière sur les crédits hypothécaires américains a éclaté, des capitaux énormes ont fui l'immobilier, se sont rués notamment sur les matières premières, dont les matières premières agricoles et le bétail. Parce que le contexte laissait prévoir des possibilités de hausse de leurs cours. Pour les financiers, le blé ou le maïs ne sont pas seulement des marchandises comme les autres. Les titres qui les représentent sont des supports de la spéculation qui peuvent rapporter, et à certains moments, rapporter gros. Derrière ces mouvements de fonds, il n'y a pas de déplacement de marchandises. Ce ne sont que des bouts de papier que les traders s'arrachent à Chicago ou à Londres. Mais pendant que les traders s'agitent à la bourse, quand on sort de l'économie virtuelle pour rentrer dans la vraie société, les plus pauvres ne peuvent plus se nourrir et ce sont des millions d'êtres humains qui sont menacés. Alors que le marché des produits agricoles ne tient pas compte de la demande non solvable des affamés, il tient compte, en revanche, de la demande des spéculateurs. L'augmentation des volumes de transactions illustre l'importance et la responsabilité de la spéculation dans l'amplification de la hausse des prix actuels. Depuis un an, les volumes d'échanges et de contrats portant sur le soja, le maïs, le blé ou la viande ont augmenté de 20% pour atteindre 1 million de contrats par jour. On peut aussi évoquer l'écart entre l'augmentation de la consommation de café prévue à 1,6% sur l'année et la hausse de 22% du cours du café à la bourse de New York. Au final, la spéculation a touché tous les produits agricoles, que les récoltes ou la consommation aient augmenté ou pas. Le décalage entre l'offre et la demande devient de plus en plus insensé du fait des achats massifs de la part des financiers. Mais les investisseurs sont à l'affût de nouveaux placements plus profitables et peuvent retirer leurs capitaux brusquement du marché en entraînant une chute des cours des matières agricoles tout autant catastrophique que leur hausse. Et plus la crise se développe, plus les mouvements deviennent erratiques. Les soubresauts fiévreux du prix du riz, du maïs ou du blé ont des conséquences plus immédiates, plus mortelles au sens littéral du mot, que les variations du cours des actions de telle ou telle grande banque. D'autant plus que lorsque l'une de ces banques est menacée de faillite, elle peut compter sur la générosité des États pour la sauver, pas les affamer. Un journaliste du Monde écrivait à propos de la tendance à la hausse des prix, je le cite, « À court terme, la Banque mondiale a raison de faire campagne pour atténuer l'impact de prix alimentaires plus élevés sur les pauvres. Mais à plus long terme, le meilleur moyen de réduire la pauvreté, spécialement celle des populations rurales, et de nourrir la planète, est de faire en sorte que l'agriculture paye. » Ce que propose ce monsieur, c'est de laisser faire les lois du marché. Mais combien d'habitants des bidonvilles, combien de paysans d'Afrique ou d'Asie mourront de faim avant que les lois du marché permettent une augmentation suffisante de la production et que leur prix leur soit accessible, si tant est même que cela arrivera un jour. Oui, incontestablement, les mouvements erratiques des capitaux spéculatifs constituent les causes immédiates de la crise alimentaire présente. Mais si les hausses brutales du prix de la marchandise qui ont touché les classes populaires, même dans les pays impérialistes, ont eu des répercussions immédiates, dramatiques, dans tant de pays, c'est tout de même essentiellement parce que dans ces pays, une partie importante de la population est sous-alimentée ou mal nourrie en permanence. Pour s'attaquer à la faim, il faudrait s'attaquer à la domination de la grande bourgeoisie sur l'économie, dont la responsabilité est engagée dans cette misère généralisée. L'agriculture est devenue une branche d'activité qui, comme l'industrie, est entièrement dominée par le capital. Dans cette sphère, la plus ancienne de l'activité humaine, celle qui est la plus étroitement liée aux besoins vitaux de l'homme, la recherche effrénée de profits et la concurrence conduisent au scandale de la malnutrition et de la famine. Alors, on peut s'interroger sur la façon dont cette évolution s'est faite. Et c'est dans l'industrie que le capitalisme moderne a connu son essor explosif, pas dans l'agriculture. Au XIXe siècle, pendant que toute l'Europe, surtout dans sa partie occidentale, voyait pousser des usines, s'allonger les lignes de chemin de fer et se transformer l'économie, l'agriculture est restée globalement archaïque. Aux États-Unis, en revanche, dans la plaine du Middle West, sur les terres accaparées et défrichées par les colons, le manque de main-d'œuvre a favorisé l'introduction de moissonneuses, de batteuses, tirées dans un premier temps par des animaux de trait, avant d'être motorisés. Disposant de conditions favorables, les fermiers américains sont devenus les premiers producteurs de céréales, supplantant entre autres la Russie dès la Première Guerre mondiale. les États-Unis ont profité des deux guerres mondiales qui ont affaibli leurs concurrents européens pour renforcer leur hégémonie industrielle, mais aussi agricole. Dès l'introduction de méthodes industrielles dans la production agricole, les négociants ont pris le contrôle du marché. L'entreprise Cargill s'occupait du commerce de blé en 1865. Elle a ensuite élargi ses activités au commerce du soja, du maïs, puis à la fabrication des tourteaux, c'est-à-dire de la nourriture pour les élevages industriels, et au conditionnement de la viande. Elle possède sa propre flotte. Elle est devenue la première multinationale dans le domaine de l'agroalimentaire. En Europe, ce n'est qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale que, ne pouvant faire face à la demande agricole intérieure, la plupart des États des pays les plus riches se sont engagés dans une politique de modernisation de l'agriculture. Celle-ci était encore très peu mécanisée et utilisait peu d'engrais. La France, en particulier, restait un pays à forte population rurale. Des millions de petits exploitants possédaient les terres. Le gouvernement a favorisé la constitution de coopératives de producteurs qui sont devenues depuis de véritables sociétés capitalistes malgré leur statut particulier. Les marchands de grains privés ont quasiment disparu au profit de ces coopératives. Des aides au départ ont été instaurées pour inciter les paysans à se reconvertir et à faciliter ainsi la concentration des terres. En se regroupant, les paysans ont pu acheter des tracteurs, centraliser leur production. La modernisation demandait d'engager des capitaux de plus en plus importants. Des financements et des prêts bonifiés ont été mis à disposition des paysans. Les terres ont été remembrées pour former des zones plus vastes, facilitant l'emploi de moyens modernes. Dès le milieu des années 1950, la France est devenue exportatrice de céréales. La constitution de la communauté européenne dans les années 1960 a permis à l'agriculture de disposer d'un marché protégé. Le commerce était libre entre les 6 partenaires de la communauté européenne, mais les importations étaient contrôlées. La préférence communautaire s'appliquait. À l'issue de cette transformation, le nombre de paysans en France est tombé de 7 millions après la Seconde Guerre mondiale à 700 000 aujourd'hui. Alors c'est dans ces conditions, alliant la protection du marché intérieur et une aide importante de l'État et de l'Union européenne, que s'est faite la modernisation de l'agriculture. À chaque étape de cette modernisation, les grandes sociétés ont raffermi leur mainmise sur l'ensemble de l'agriculture et de l'élevage. La mécanisation et la motorisation ont impliqué le développement de groupes industriels fournissant tracteurs, moissonneuses, batteuses, etc. Pour rendre la terre plus productive, il faut épandre des engrais. Des hybrides plus performants ont été livrés par des entreprises spécialisées qui ont breveté les semences obtenues. De même, les races de vaches, volailles et autres animaux d'élevage ont été sélectionnées. L'élevage du bétail implique dès lors une emprise plus grande des secteurs de l'agroalimentaire sur les paysans. Pour qu'une vache produise 10 000 litres de lait par an, comme cela est possible aujourd'hui, il faut la nourrir avec une alimentation spécifique fournie par l'industrie. Les quantités produites de céréales, de viande ou de lait sont devenues telles que leur transformation et leur commercialisation ont été prises en main par des trusts tels que Nestlé ou Danone. La politique des États pour constituer une agriculture moderne a donc été un marchepied pour ces sociétés. La plupart des grands trusts de l'agroalimentaire ont émergé non pas de l'agriculture, mais de l'industrie ou du commerce. Un groupe français, le groupe Louis Dreyfus, est le fruit d'une évolution similaire à celle du Trust Cargill, dont nous avons déjà parlé. Cette société, fondée en 1851 par un marchand de blé alsacien, s'est d'abord spécialisée dans le négoce des grains entre la Russie et les villes du Nord. Ses affaires se sont ensuite diversifiées au point qu'elle fait partie aujourd'hui des leaders sur les marchés du sucre, du café, de l'étain et du zinc. Elle est présente dans le gaz, le pétrole, les transports et la communication. Son chiffre d'affaires actuel est de 30 milliards de dollars. Elle est possédée à 51% par la famille Dreyfus, qui, pour l'anecdote, possède aussi le club de football Olympique de Marseille. Filiale de Dupont depuis 1999, la société Pioneer Hybrid s'est imposée dans le domaine des semences hybrides qui permettent d'augmenter les rendements, mais doivent être achetées tous les ans ou presque. Aujourd'hui, elle compte parmi ses actionnaires les banques Barclays, Citigroup et d'autres. Avec une dizaine d'autres de sociétés, elle contrôle 40% du marché des semences. En ce qui concerne les intrants, c'est-à-dire par exemple les engrais ou les herbicides, on retrouve des semenciers et des entreprises chimiques comme Bayer. Une société comme Danone est issue de l'entreprise BSN qui produisait à l'origine des bouteilles en verre. Elle est aujourd'hui une des premières entreprises mondiales pour le marché des produits frais à base de lait, des biscuits et des eaux minérales. Dans la distribution, une entreprise comme Carrefour dispose d'environ 9000 magasins dans plus d'une vingtaine de pays. Walmart, la société de distribution américaine, s'est développée dans les années 60 aux États-Unis et possède actuellement plus de 6000 supermarchés et hypermarchés dans le monde. Alors, toutes ces entreprises, semenciers, trusts de la chimie et de la transformation des denrées alimentaires ou encore du transport et de la distribution, enserrent les paysans. Elles contrôlent les prix d'achat et de vente, le prix des fournitures aux paysans et jusqu'aux résultats de leur travail. Les fermes capitalistes les plus modernes ne produisent plus pour un marché local. Elles sont devenues des sous-traitants des grands groupes industriels de l'agroalimentaire et produisent pour le marché mondial. Voilà comment est décrite la position des agriculteurs ou éleveurs dans une revue, The Ecologist, qui dénonce la politique de la fameuse société Cargill. Un fermier sous contrat avec Cargill achète ses semences à la société Renaissance, qui est une filiale de Monsanto et de Cargill, puis son fertilisant à Cargill. Il vend sa production à Cargill, qui la transforme en nourriture pour volailles, la fait transporter par ses navires en Thaïlande, où elle sert à un producteur de volailles sous contrat avec Cargill. La stratégie de cette entreprise est de multiplier le nombre de producteurs qui travaillent pour elle. Aux États-Unis, qui est le pays où cette évolution a été la plus poussée, un tiers des agriculteurs est sous contrat avec des industriels de l'agroalimentaire. Ces fermiers sont devenus des sous-traitants des industriels. Certains des trusts de l'agroalimentaire font le choix d'exploiter directement des terres. Une société comme Unilever possède environ 18 000 hectares de plantations dans le monde. Elle emploie des milliers d'ouvriers agricoles payés à des salaires très faibles. Le marché des bananes, cultivé le plus souvent sur de grandes plantations, est contrôlé à 70% par quatre sociétés. Chiquita, anciennement United Fruit, Dole, Del Monte et Castle & Cook. La presse a rapporté récemment les propos de certains manifestants de bananeraies du Cameroun, protestant contre les salaires au moment des émeutes de la faim qui ont traversé ce pays. Nous voulons que les Français nous payent bien. Nous sommes chez nous, après tout. Nous ne sommes pas des esclaves. Ces bananeraies sont possédées par la société SPM, une société française, ou encore par la société PHP, détenue à 37% par la Dole. Ces plantations et ces serres sont la propriété de capitalistes. Ce sont des îlots d'agriculture moderne où l'on met en œuvre pour les rentabiliser ce qui est nécessaire en matière d'irrigation, d'engrais, de recherche, de semences, etc. Dans d'autres secteurs, les multinationales ont fait le choix de commercialiser la production sans y être directement liées. Dans les pays riches, les exploitants dépendent le plus souvent des trusts de l'agroalimentaire ou de la grande distribution. En France récemment, on a vu des producteurs de lait entrer en conflit avec la société Entremont qui voulait leur imposer un prix inférieur à celui qui est habituellement pratiqué. Cet été encore, les producteurs de fruits et légumes ont dénoncé le prix qui leur était payé, soit 40 centimes pour un melon, vendu ensuite 2 euros dans les grandes surfaces. Les grandes enseignes récupéreraient 60% du prix de vente final de la plupart des fruits et légumes. Dans les pays pauvres, un grand nombre de paysans travaillent de fait pour ces trusts. C'est le cas des producteurs de café, d'arachide ou de cacao, pour n'en citer que quelques-uns. Pour le café, ce sont 4 sociétés, dont la société Dreyfus, encore elle, qui contrôle la commercialisation de la majorité de la production, et 3 autres, dont Nestlé et Philip Morris, qui torréfient les fruits des 25 millions de producteurs. En Éthiopie, au Vietnam, en Colombie, au Brésil, des millions de familles paysannes disposant de moins de 5 hectares espèrent parvenir à gagner de quoi s'acheter suffisamment de nourriture, de quoi se vêtir et envoyer les enfants à l'école. Via toute une chaîne d'intermédiaires, les trusts leur achètent leur production lorsque les cours sont au plus bas et payent aux producteurs de l'ordre de 60% du prix du marché. Ces paysans ont évidemment une capacité d'investissement extrêmement faible. Les trusts se désengagent complètement de la production. Ils ne sont pas concernés par les difficultés des paysans qui subissent, par exemple, la chute des prix qui a ruiné quantité de familles. Ils n'ont d'ailleurs le plus souvent aucun contact direct avec les paysans. Ce sont des intermédiaires, des sociétés d'État ou des marchands privés qui collectent la production et prennent leur part sur le travail des paysans. Alors, il existe aussi un grand nombre de paysans qui sont rejetés sur les terres les moins fertiles, sans moyens techniques, sans accès à l'eau. Toute irrigation leur est inaccessible. Cherchant à produire juste de quoi ne pas crever de faim, ils sont malgré tout confrontés au marché pour le renouvellement des outils ou l'obtention de semences. Ils s'y confrontent aussi en raison de leurs quelques pieds de café ou de palmiers qu'ils entretiennent pour se procurer un peu d'argent. Lorsqu'ils vendent directement aux citadins ou par l'intermédiaire de marchands les quelques produits de leur culture, ils subissent la concurrence de denrées équivalentes qui viennent des pays riches et qui sont subventionnées. Les lois du marché les écrasent encore plus durement. Dans ce monde où la technologie semble pénétrer tous les secteurs de la vie économique, la grande majorité des paysans utilisent toujours des techniques ancestrales. À l'échelle mondiale, sur 1,3 milliard de paysans, 30 millions, 2% à peine, disposent d'un tracteur. 80% des agriculteurs d'Afrique et 40 à 60% de ceux d'Asie et d'Amérique utilisent un outillage manuel. Les différences de productivité sont énormes. Au début du XXe siècle, suite à une première évolution de l'agriculture et dans la foulée de la révolution industrielle, ceux des paysans des pays européens qui disposaient des meilleures techniques produisaient déjà 10 fois plus que ceux qui cultivaient manuellement les moins bonnes terres. Aujourd'hui, l'écart s'est creusé
entre l'agriculture la plus performante et celle qui utilise des techniques archaïques sur des sols peu fertiles, sans accès à l'irrigation. Les exploitations les plus modernes produisent 500 fois plus que les autres. En conséquence, des millions de paysans sont sous-alimentés. Et comme ils ne disposent pas d'un minimum de moyens, ils ne peuvent pas augmenter leur production, ce qui aggrave encore le manque de denrées agricoles dans les pays pauvres. La puissance des multinationales conduit à une restriction de la production vivrière. Les firmes de l'agroalimentaire dirigent de fait le développement de la production agricole mondiale, mais elles entrent en concurrence les unes avec les autres, et leurs objectifs n'est de toute façon pas d'assurer l'alimentation de la planète. Elles y pourvoient en fonction des exigences de leurs actionnaires. Elles n'envisagent donc aucune planification en fonction des besoins de l'humanité. Cela constitue une des raisons majeures de la malnutrition permanente à laquelle est soumise une partie importante de la population. L'évolution du capitalisme à son stade impérialiste a conduit à l'émergence des trusts. Un autre aspect en a été la situation privilégiée d'une poignée d'États qui pillent le reste de la planète. Par la colonisation, les États des pays industrialisés ont mis sous tutelle le reste du monde pour assurer des débouchés à leur production et à leurs capitaux, pour contrôler les sources de matières premières et avoir à disposition une main-d'œuvre exploitable. Puis, avec la décolonisation, cette mainmise a pris d'autres formes, mais elle empêche toujours ces pays de sortir de leur sous-développement. Leur économie est devenue une annexe de celle des pays riches. Alors, je ne reviendrai pas sur le pillage de ces pays par les puissances coloniales, mais sur les dommages qui les ont marqués et qui se perpétuent toujours aujourd'hui au travers de mécanismes économiques. Dans quasiment toutes les colonies, la monoculture fut imposée. En Indochine, ce fut la culture de l'EVA à la fin du XIXe siècle qui fut exploitée entre autres par Michelin. L'Afrique, déjà vidée de sa population par le trafic d'esclaves, eut à subir, comme les autres colonies, la spécialisation de son économie. Au Tchad, le coton fut cultivé, enrichissant les familles Boussac et autres. Au Cameroun, l'administration française développa le cacao. Au XIXe siècle, l'administration coloniale française imposait aux habitants du Sénégal de lui fournir de l'arachide ou de la graine de palme. Si les villageois ne satisfaisaient pas à cette demande, les troupes coloniales mettaient les villages à feu et à sang. C'est par la simple cueillette à la main que les graines d'arachide de palme étaient récoltées avant d'être expédiées en France. Là, elles étaient transformées en huile alimentaire ou en savon pour le plus grand profit de la famille Le Sieur, qui bâtit sa fortune grâce à l'exploitation de l'arachide. Dans les années 30, lorsque la moitié des terres agricoles furent couvertes d'arachide, l'administration coloniale importa de la brisure de riz d'Indochine pour satisfaire la consommation locale. Elle imposa le riz en remplacement du mil que l'on produisait en quantité insuffisante du fait de l'extension de la production d'arachide. Cela lui permettait aussi de trouver un débouché au riz d'Indochine, qui était une autre colonie française. Non seulement les habitants furent contraints de produire de l'arachide, mais ils devinrent dépendants de l'impérialisme pour leur nourriture de base. Les colons ou les entreprises de l'empire colonial ont volé les meilleures terres. Les métropoles ont mis en faillite les produits de l'artisanat local en inondant le marché de marchandises à bas prix. Elles ont appauvri et brisé toute une partie de la population par le travail forcé et l'exploitation. L'investissement pour les chemins de fer, les routes ou les ports a été limité à ce qui était indispensable aux affaires des capitalistes présents sur ces marchés. Les progrès techniques ou médicaux que le capitalisme aurait pu apporter furent quasiment inexistants. Dans la plupart des colonies, les paysans en restèrent à l'utilisation des outils les plus rudimentaires. Le capitalisme a renforcé la barbarie de ces sociétés et a dégradé la situation de ses habitants en se superposant aux anciennes classes dominantes. Cette emprise directe a duré jusque dans les années 1960 pour la plupart des pays d'Afrique et d'Asie. Ils s'en sont libérés pour un certain nombre d'entre eux, tels que l'Algérie ou l'Indochine, au prix de guerres extrêmement violentes et destructrices. Mais à partir de là, cette domination s'est exercée sous d'autres formes et perdure avec toujours autant de brutalité. Les ex-colonies sont devenues indépendantes, mais elles ont continué à être écrasées, non plus directement par le pouvoir colonial, mais par le marché mondial. Les pays qui n'ont jamais été au sens strict des colonies ont été dominés par les grandes puissances et le sont restés. Chacun de ces pays est enfermé dans des choix politiques très restreints qui les conduisent à perpétuer ce que nous avons souligné pour la période coloniale, à savoir la monoculture d'exportation. Il n'y a plus de chicotte, mais la violence est la même. De nombreux pays pauvres ont tenté de développer leur industrie en accumulant des capitaux par l'exploitation de leur paysannerie. Ils ont, de fait, poursuivi la politique coloniale de développement de cultures d'exportation. Nous avons déjà évoqué la politique de l'administration française au Sénégal, où la moitié des terres cultivées a été consacrée à l'arachide. Le gouvernement sénégalais l'a poursuivi. L'État fit du commerce de l'arachide, entre autres, son monopole, ce qui lui permit de générer des fonds au détriment des paysans. Mais entre la concurrence avec les autres types d'huiles végétales et la forte augmentation de la production venant de pays où l'on présentait la culture de l'arachide comme une panacée pour faire rentrer des devises, du fait aussi de la fin du tarif préférentiel accordé par la France, les prix baissèrent, fragilisant la situation économique du Sénégal. L'État n'eut plus les moyens de payer l'arachide au prix fixé jusque-là. L'industrialisation du pays fut limitée et parallèlement, avec le recul des cultures vivrières, l'alimentation de la population s'est détériorée. L'économie de ces pays basée sur la monoculture d'exportation, les rend extrêmement sensibles aux variations des cours et aux conditions du marché sur lesquelles ils n'ont pas de prise. Le Ghana, dont la source de devises dépend du cacao, a subi de plein fouet la baisse de 20% de son prix entre 1996 et 2000. Ses rentrées en devises ont diminué malgré une augmentation de sa production de 130 000 tonnes pendant cette période. Les normes fixées par les pays importateurs de produits exotiques peuvent modifier les termes de l'échange. Par exemple, la définition adoptée en 2003 par l'Europe sur le chocolat, acceptant l'usage d'autres graisses que celles du cacao, a eu pour conséquence de favoriser des pays au détriment d'autres. Avec le début de la crise, dans les années 1970, les banques, les investisseurs, trouvèrent comme palliatif au ralentissement des investissements productifs une politique de prêt destinée aux pays pauvres. En quête de placements lucratifs, ces prêts à des taux élevés ont constitué une nouvelle source de profit. Les remboursements semblaient garantis par les rentrées d'argent liées au prix des matières premières, entre autres agricoles. Lorsque ceux-ci se mirent à baisser, les pays fortement endettés entrèrent dans la spirale du surendettement. À partir des années 1980, du fait de l'incapacité à rembourser les prêts accordés dans les années 1970, le Fonds monétaire international imposa une coupe claire dans les dépenses d'État, l'arrêt des subventions à l'industrie et à l'agriculture. Les pays qui suivirent les recommandations du FMI et de la Banque mondiale furent gratifiés de nouveaux prêts. Ceux-ci furent accordés aux pays qui acceptèrent aussi l'abaissement des barrières douanières. C'est ce qu'on a appelé les politiques d'ajustement structurel. En réalité, les pays soumis à ce chantage ruinèrent leur agriculture. Rembourser les prêts implique de renforcer plus encore la politique de la monoculture ou de culture d'exportation pour faire rentrer les devises. Chaque gouvernement imposa donc de son propre chef, à son propre pays, la quasi-disparition de la culture vivrière, c'est-à-dire des cultures destinées aux besoins locaux. Par là même, la dépendance alimentaire vis-à-vis des pays riches exportateurs de céréales s'est renforcée. Ce constat terrible est fait par bien d'autres courants politiques que les communistes révolutionnaires. Les altermondialistes en voient les causes dans la mondialisation. Les tiers-mondistes d'ici et les nationalistes radicaux des pays pauvres proposent une politique protectionniste vis-à-vis de l'extérieur afin d'échapper, au moins dans une certaine mesure, à l'emprise des trusts de l'agroalimentaire. Nous avons toujours été et nous sommes solidaires des pays pauvres qui ont eu le courage et la possibilité de choisir cette voie. Ce choix a été fait à des degrés divers par quelques pays dont le gouvernement est venu au pouvoir grâce à une révolution populaire. S'appuyant sur des mouvements paysans radicaux, ces pays, de ce fait, avaient un soutien dans les classes populaires qui leur permettait de résister aux pressions de l'impérialisme. Cette pression ne se limite pas aux lois du marché. Le trust United Fruit, aujourd'hui Chiquita, a imposé sa loi dans toute l'Amérique centrale par la violence, en brisant impitoyablement toute tentative de s'en libérer. Rien que depuis le renversement du gouvernement Arbenz au Guatemala en 1954, parce qu'il envisageait une timide réforme agricole qui menaçait ses intérêts, combien de coups d'État ont été appuyés par Chiquita ? Combien de guerres civiles sourdes, comme celles menées au Salvador par des bandes armées contre les paysans pauvres, ont toujours cours ? Après une véritable insurrection paysanne, Cuba a réussi à desserrer l'emprise directe des trusts impérialistes. Le Nicaragua aussi, dans une certaine mesure, et seulement pendant quelque temps. Mais les États-Unis ont imposé un isolement total à Cuba. Et cet exemple montre qu'il n'y a pas de solution à long terme dans l'isolement par rapport à l'économie mondiale. Le problème n'est pas la mondialisation de l'économie qui est un fait inéluctable. Le problème, c'est l'impérialisme, ces relations économiques basées sur l'inégalité fondamentale entre pays impérialistes et pays pauvres. Inégalité qui s'accroît au lieu de se réduire avec le temps. C'est l'ordre impérialiste qu'il est impératif de détruire, c'est-à-dire le capitalisme dont il est l'expression suprême. On va faire une petite interruption là.
Donc nous allons faire une pause d'un quart d'heure pour des raisons de sécurité.